Kiosque Magazine.
Jeudi 30 avril 2015, et comme à tous les jeudis, on va vous parler d'économie et d'emploi. Mais avant de débuter, je vais me permettre de souhaiter un joyeux anniversaire, puisque demain, on est au mois de mai. Un joyeux anniversaire, donc, à la Grande Bibliothèque, qui célébrera le 3 mai son 10e anniversaire. Et c'est pas rien, on se rappellera que la Grande Bibliothèque avait été construite à une époque d'austérité, l'époque où Lucien Bouchard fermait des hôpitaux par ailleurs, alors on avait beaucoup critiqué à l'époque. C'est quand même devenu la bibliothèque francophone la plus fréquentée au monde, et ça, c'est toute une réussite culturelle. Donc, je lui souhaite un bon anniversaire. Ceci dit, on va quand même parler d'économie, d'emploi. Qu'avons-nous au menu aujourd'hui? Voilà.
Alors, on va commencer par l'entreprise, dont on n'avait pas parlé depuis un certain temps. Et la question de l'entrepreneuriat se pose-t-elle de la même façon partout, hein? Il semblerait que les aspects sociologiques ou psychologiques se mêlent à un substrat purement technique du genre une idée plus un financement. Et même la question de la motivation, de la volonté d'agir, eh bien, elle doit être envisagée assez finement. Par exemple, au Québec, est-ce qu'on y rencontre une façon différente d'entreprendre? Et si oui, quelle est-elle? Ça sera mon premier sujet. Alors ensuite, retour à l'environnement, parce qu'on n'en parlera jamais assez. Le Conseil de l'Arctique, hein, qui a été créé en 1996 et qui comprend 8 pays, a d'abord été présidé par le Canada, puis par les États-Unis. Et il est très intéressant à suivre, d'abord parce que son caractère spécialisé, au moins régionalement, lui permet d'éviter mieux que le G20, le côté grande messe médiatique inutile, et d'autre part parce qu'on y produit des réflexions de haut niveau. Est-ce que ça peut déboucher sur des actions communes, des décisions? Ben ça, c'est une autre affaire. Et pour terminer, en ce qui me concerne, retour dans l'entreprise, et on va s'interroger sur l'unanimité, hein, l'autorité d'un seul homme compétent qui donne de bonnes raisons et des preuves certaines. Vaut-il mieux que le consentement unanime de ceux qui n'y comprennent rien? C'est Galilée qui aurait dit ça. Eh bien, on ne peut qu'applaudir, hein. On peut même s'intéresser à Tocqueville lorsqu'il dit que la démocratie, c'est la tyrannie de la majorité. Cela dit, qu'en est-il à un niveau plus restreint, celui de l'entreprise? Et que faire avec une opinion qui n'est pas partagée par ses collègues ou sa hiérarchie? Bref, est-ce qu'on peut assumer sa singularité?
Vous aurez bien entendu reconnu la voix chaude et l'accent légèrement hexagonal de Derek de Benval qui coanime cette émission. Pour ma part, je m'appelle François Brodeur et au cours de la prochaine demi-heure, je vous parlerai de niaiserie, oui, en fait, puisque c'est le texte de l'article de Michel David et là, on parle de français au travail, c'est quand même pas rien. De mercantilisation de la maladie, de l'infrastructure médicale. Est-ce que nos hôpitaux sont en train de devenir des too big to fail à leur tour? Et d'abord et avant tout, dans quelques instants, la conjoncture minière, parce qu'on est à une époque de plan Nord, à une époque où nos mines sont censées nous sauver tous. Qu'en est-il vraiment? Alors tout ça, ça commence dans quelques secondes. Alors, François Riverain signe une collaboration spéciale dans la presse du 27 avril, intitulée « Au cœur d'une conjoncture difficile ». La faiblesse persistante du prix des métaux inquiète sérieusement les exploitants miniers du Québec et les empêche de profiter pleinement des retombées de la récente stabilité fiscale et législative de la relance du plan Nord. Les marges sont serrées. C'est clair que nos membres cherchent par tous les moyens à réduire leurs coûts, constate José Méthotte, présidente directrice générale de l'Association minière du Québec. Avec la relance du plan Nord et l'adoption de la nouvelle loi sur les mines, Mme Méthotte juge que la province lance un bon signal d'ouverture et de stabilité aux investisseurs internationaux. Quant aux redevances, la dirigeante est parfaitement d'accord pour ouvrir les livres des entreprises minières au public, mais voudrait qu'on divulgue aussi les apports fiscaux de l'industrie. Sa seule restriction concerne les producteurs de certains métaux concentrés dans des créneaux très ciblés, qui souhaitent garder secret la somme des ventes et les quantités vendues pour des raisons concurrentielles, ce qui m'apparaît toujours un peu étrange, moi. De façon générale, les sociétés minières québécoises bénéficient de la baisse des prix du pétrole et du dollar canadien. Toutefois, dans le cas du fer, c'est loin de compenser la baisse vertigineuse du prix du métal. Deux des quatre mines de fer du Québec, celle du lac Bloom de Cliff Natural Resources et la mine James de Labrador Iron Mine Holding, ont fermé leurs portes en 2014. Selon Pierre Lapointe, nouveau président d'ArcelorMittal Exploitation Minière Canada, la viabilité des mines du Mont-Wright et de Fire Lake près de Fermont est fragile. À Havre-Saint-Pierre, Rio Tinto Fer et Titane vient de mettre à pied 31 travailleurs après l'annonce d'une réduction de 15 à 20 % de la production de sa mine d'ilménite. J'ai vérifié pour l'ilménite, c'est un minerai qui contient énormément de fer et de titane. Les producteurs de zinc et de nickel ont obtenu, quant à eux, une légère augmentation des prix du dollar US en 2014, hausse qui s'ajoute aux gains provenant du recul du dollar canadien. Toutefois, le prix du nickel s'est replié depuis le début de l'année. Pour sa part, le prix de l'or a reculé en 2014, mais se maintient au-delà des 1200 $ américains l'once depuis le début de l'année. On perçoit un léger regain d'optimisme et de vigueur chez les producteurs. Le Québec s'achemine d'ailleurs vers un record de production cette année avec l'arrivée de la supermine Éléonore de Goldcorp. Mine Agnico Eagles, le leader de la production d'or au Québec à la suite de l'acquisition de Canadian Malartic, a doublé son budget d'exploitation cette année. Par ailleurs, quelques incertitudes commencent à se dégager au sujet du plan Nord. Le gouvernement du Québec allouera 425 millions sur 5 ans pour l'administration et quelques projets prioritaires de la Société du plan Nord. Il a accordé un prêt de 100 millions d'investissement Québec à Canadian Royalties pour le maintien de sa mine de nickel au Nunavik. Dans les investissements privés, seuls les 25 millions de redevances aurifères Osisko et les investissements hydroélectriques Hydro-Québec semblent des engagements fermes. Le reste est en fonction des prix des matières premières, notamment pour les 7 projets de fer répertoriés dans le plan Nord. 7 projets de fer en plus des 4 mines qu'on a déjà, dont 2 ont fermé cette année. C'est pas jojo, je dirais. Forcé par la nouvelle loi sur les mines, Focus Graphite a pour sa part lancé une étude d'opportunité au coût de 1 à 1,5 million pour la construction d'une usine de transformation du concentré de graphite du gisement de Lac Knife près de Fermont. La société est à la recherche d'un financement de 166 millions depuis le mois de juin 2014, voilà, pour mettre le gisement en exploitation, ainsi que d'un acheteur stratégique pour sa production. Alors, on le voit, la production minière, le plan Nord, c'est peut-être un Eldorado, puis c'est peut-être un miroir aux alouettes, puisque le marché est tout simplement pas là. Et jusqu'à maintenant, les seuls investissements garantis sont à peu près ceux qui sont faits soit aux frais d'Hydro-Québec, soit aux frais de Québec. Inquiétant. Quand un citoyen français me parle de l'esprit d'entreprise, j'ai toujours tendance à penser qu'il va me parler de vie amoureuse. Eh bien non, c'est pas le cas, semble-t-il.
Ben, je préférerais, mais c'est une émission sérieuse et il faut rester dans les cadres qui nous ont été
sérieuse,
fixés.
Sérieuse, une minute, on parle d'économie ici.
Oui, vous avez raison. Bon, en tout cas, on va essayer de parler du goût des affaires. Alors, est-ce qu'il est bien présent, non pas en France, mais au Québec? Mais est-ce qu'il existe aussi une peur de ne pas avoir les compétences requises? Et ça peut être paralysant. Écoutez, ça a intéressé Éric Desrosiers, qui s'intéresse à tout, décidément, hein, dans le Devoir du 28 avril, et qui a appelé son article « Les Québécois cultivent le doute ». Le Québec ne manque pas d'esprit entrepreneurial. Il compte même l'une des plus fortes proportions de citoyens des économies développées à vouloir se lancer dans les affaires, rapportent les chercheurs. Mais ces intentions ne se traduisent pas toutes en actes, faute d'un sentiment suffisant de compétence. Un peu moins d'un Québécois adulte sur 5, ça fait exactement 19,1%, a dit avoir l'intention de créer une entreprise au cours des 3 années suivantes dans le cadre d'une grande enquête d'opinion sur l'entrepreneuriat réalisée l'an dernier dans plus de 130 pays. C'est plus que dans tous les pays occidentaux, y compris le reste du Canada et les États-Unis. La force relative de ce désir s'observe aussi bien chez les hommes que chez les femmes, de même que chez les plus jeunes de 18 à 39 ans. Une partie de cette belle énergie entrepreneuriale semble toutefois condamnée à perdre son élan par la suite, si l'on en juge par la proportion de Québécois, 10,5% contre 13,8% dans le reste du pays, qui ont dit avoir effectivement lancé une entreprise au cours des 3 dernières années, observent les auteurs de l'analyse du volet québécois de l'enquête du Global Entrepreneurship Monitor, Marc Duhamel et Étienne Saint-Jean de l'Université du Québec à Trois-Rivières. On se demande pourquoi leur journal n'a pas un titre français quand même. Bon. Que j'ai entendu dire que c'était une querelle d'actualité, n'est-ce pas? Si l'avance qu'affiche aujourd'hui le Québec sur les autres en matière d'intention entrepreneuriale se confirme, cela donnera lieu à un rattrapage intéressant, a déclaré en entretien téléphonique au Devoir l'économiste Marc Duhamel. Mais les réponses sur la création de nouvelles entreprises laissent croire qu'une plus grande proportion de Québécois abandonnent finalement leur projet. Le Québec serait pourtant l'un des endroits où l'on valorise le plus l'entrepreneuriat comme choix de carrière. 79% contre 50% dans le reste du Canada. Rapportent les deux experts qui se basent notamment sur un sondage réalisé entre avril et juin 2014 auprès de 2479 Canadiens, dont 471 Québécois. Grand obstacle dans plusieurs pays, la peur de l'échec n'y est pas plus élevée, 39%, que dans le reste du Canada, ni que la moyenne des pays développés. Ce qui nuit probablement aux Québécois, c'est qu'à peine le tiers estime avoir les compétences nécessaires pour se faire entrepreneur, ce qui est en deçà de la moyenne des pays développés et plus loin encore que le reste des Canadiens, qui sont parmi les meilleurs à ce chapitre.
Ou alors qu'ils ignorent les dangers de l'entrepreneuriat, ou on les grossit au Québec, c'est l'un ou l'autre.
Bah oui, il faut probablement fermer un œil pour foncer ou quelque chose comme ça. Bon, pardon pour cette métaphore malheureuse. Être chef d'une petite entreprise, c'est souvent s'occuper à la fois de la gestion des opérations, des ressources humaines, de la comptabilité, dit Marc Duhamel. Cela nous ramène à toute cette question de la promotion de la littératie financière, mais aussi à l'enseignement dans les écoles de compétences comme le sens de l'initiative, le leadership ou la créativité, fait-il valoir avec Étienne Saint-Jean. Au total, le Québec se situe malgré tout bien au-dessus de la moyenne des pays riches avec 19% d'entrepreneurs déclarés. Le reste du Canada arrive bon premier avec 24%. La quasi-totalité des nouveaux entrepreneurs québécois se lancent dans les affaires par choix et non parce que c'était la dernière option qui leur restait. De toutes les économies développées, c'est l'endroit où l'on voit le plus d'entreprises survivre au départ de leurs dirigeants. Ce phénomène qui tient sans doute au Québec en partie au départ en masse des baby boomers partagent les experts. Selon des études, cela facilite les gains de productivité. Selon d'autres études, cela est le signe au contraire d'une économie où la concurrence et l'incitation à repartir à neuf ne sont pas assez fortes. Le Québec est aussi l'un des endroits où l'on retrouve le plus d'intrapreneurs, c'est-à-dire d'employés exerçant les mêmes talents d'innovation et de leadership que les entrepreneurs, mais à l'intérieur d'une entreprise. On a aussi demandé l'avis de 37 experts sur le contexte entrepreneurial au Québec. Ils ont estimé que les infrastructures physiques, les programmes gouvernementaux et les normes socioculturelles étaient généralement bons, mais ont exprimé des réserves notamment quant à la facilité d'entrer dans le marché, l'utilisation des technologies de financement, de même que l'enseignement et la formation en entrepreneuriat. Messieurs Duhamel et Saint-Jean concluent dans leur rapport de 50 pages que l'intention d'entreprendre exprimée par les Québécois garde son élan. Cela est fondamental afin de voir émerger des organisations pérennes sur le territoire. Tout ça me paraît très bien, je n'ajouterai qu'un mot, enfin deux mots. Le premier, vive le Québec. Et le second, arrêtez d'avoir des doutes, il n'y a aucune raison.
Il y a une donnée aussi qui est ignorée par l'étude, c'est la forte proportion de PME qu'on a au Québec qui fait en sorte que finalement, il va y avoir plus de rotation nécessairement que dans le reste du Canada.
Oui.
Ça fausse la donnée.
Et PME, premier employeur du pays.
Faut pas dans la poussière, et moi la tête haute, moi la tête fière. Une porte s'ouvre puisqu'une autre se ferme. Certitude rare, certitude claire. J'ai couru et couru, couru à perdre haleine. Chacun des détours en valait la peine. Ça aura valu la peine. Et les doutes nous font à peine. Ça aura valu la peine. Comme les certitudes sont vaines. Ça aura valu la peine.
Caracol qui chantait Certitude. Et parlant de certitude, il y en a une actuellement qui, je dirais, qui percole à travers toute la société québécoise, ou en fait à travers le monde entier, c'est qu'il y a une seule logique possible pour organiser les choses, c'est la logique d'entreprise. Est-ce que ça doit tout contaminer? Est-ce que ça doit rejoindre tous les milieux? C'est en quelque sorte la question que Francine Pelletier se posait dans Le Devoir d'hier en écrivant son texte « Le marché des malades ». C'est en les voyant sortir un par un en civière, un cortège infini de malades, 250 patients en tout, quittant le vieux Royal Victoria pour l'imposant Cusum, que je me suis posé la question. A-t-on vraiment besoin de méga-hôpitaux? Quels sont les arguments encore justifiant l'abandon de 6 établissements de santé à Montréal, exigeant des coûts de déménagement faramineux, 10 millions seulement pour le Royal Vic, et ouvrant la porte à la privatisation des soins de santé? Les PPP, partenariats public-privé, sont après tout la clé de voûte de ces méga-projets. Les méga-hôpitaux, comme les méga-données, méga-spectacles, méga-aubaines, sont à l'honneur pour des raisons, dit-on, d'économie et d'accessibilité. En concentrant chercheurs et praticiens dans un même lieu, le CHUM et son pendant anglophone, le CUSUM, promettent une gamme de services spécialisés à la fine pointe de la technologie. Il n'y a rien qu'un patient pourrait nécessiter que le méga-hôpital ne saurait lui offrir. Toutes les spécialités médicales, toutes les machines imaginables et jusqu'aux concerts de musique et expositions d'art, selon les vœux d'un ex-directeur du CHUM, seront sur place. C'est l'idée du centre d'achat de superluxe, en fait, transposé parmi les cathéters et les transfusions de sang dans le secteur névralgique de la santé. Il n'y a pas de meilleur symbole de l'actuelle réforme de la santé que ces châteaux forts rutilants, offrant une concentration maximale d'effectifs. Mais est-ce vraiment ce dont on a besoin? Rappelons que la réputation du CUSUM et du CHUM a été ternie avant même qu'ils soient en activité, une indication des problèmes intrinsèques à ce type de mégalomanie. L'ex-directeur du CUSUM, Arthur Porter, aujourd'hui accusé de fraude, n'aurait jamais en fait dû être engagé. De la Sierra Leone en passant par Détroit, les Bahamas et Ottawa, Porter était mêlé à plusieurs controverses au moment de l'embauche. Mais dans l'esprit de la gouvernance entrepreneuriale, le fer de lance du néolibéralisme au pouvoir, on n'y a vu que du feu. L'expérience internationale du Dr Porter en gestion hospitalière, qui était nulle en fait. On a beau répéter que le bien-être des patients est ici la considération première, c'est par souci du principe universel de la concurrence, par envie de se mettre sur la carte des super-hôpitaux de la planète, qu'on est prêt à tout chambarder. Selon l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, la notion d'entrepreneurship était absente des documents du ministère de la Santé ainsi que de la Régie de l'assurance maladie au début des années 2000. Mais 10 ans plus tard, le rapport annuel du ministère y fait référence 17 fois et la RAMQ 51 fois. Tout indique que la nouvelle manière de réfléchir l'action gouvernementale a largement emprunté à la logique managériale régnant dans les grands groupes multinationaux, conclut l'étude. Les réformes successives du système de santé au Québec sont un exemple de cette tendance toujours plus affichée à privilégier des solutions basées sur le marché. Mais c'est une chose de fournir de beaux organigrammes en couleur, de montrer comment les 3 petites colonnes grises représentant 3 hôpitaux montréalais vont devenir ce jeu de Lego colossal. C'en est une autre, comme le démontre bien l'actuelle crise au CHUM, de faire en sorte que la synergie existe pour vrai. Si le directeur Jacques Turgeon se montre assez difficile à suivre, il démissionne pour cause d'ingérence, change d'avis, souhaite l'ingérence du ministre la semaine d'après, c'est que la gestion de missions cliniques et académiques, sans parler des gros égos en jeu, s'avère un panier de crabes invraisemblable. Un rapport ministériel commandé en mars dernier le dit d'ailleurs en toutes lettres. Absence de vision commune du nouveau CHUM. Reconnaissance du leadership de l'Université de Montréal mitigée. Gouverne du département de chirurgie dysfonctionnel. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a beau nous dire qu'il s'agit d'un rite de passage, que tout va rentrer dans l'ordre, il va falloir le voir pour le croire. Après la corruption, la chicane et la confusion, il y a également les coûts exorbitants des méga-hôpitaux. L'équivalent de payer une maison avec une carte de crédit plutôt qu'avec une hypothèque. Les paiements mensuels à long terme des PPP doublent, selon une autre étude de l'IRIS, les coûts d'une telle opération. D'autres études démontrent que de tels regroupements hospitaliers accroissent en général les coûts administratifs et n'apportent que peu ou pas de bénéfices cliniques. Et si, comme par magie, tous ces problèmes se résorbaient, rien ne saurait effacer l'essence même de l'entreprise, la marchandisation croissante de la santé. Au début du siècle dernier, on était des malades, on est devenu ensuite des patients, gros progrès. Après, on est devenu des bénéficiaires. Peut-être que l'an prochain, nous serons des actionnaires.
Alors, quelques nouvelles du livre « Nos enfants chéris » dans cette émission. Québec investit 12 millions de dollars pour soutenir l'industrie du livre. Alors, on peut penser que c'est peut-être un peu un effet d'annonce, que ce sont des mesures qui ne sont pas vraiment aussi importantes qu'on voudrait le faire croire. Cela dit, je veux quand même dire qu'on soutient le livre, qu'on pense au livre, qu'on fait quelque chose pour le livre, même si ce n'est pas assez. Et François disait tout à l'heure que c'était l'anniversaire de la bibliothèque. Donc, je conclurai simplement en vous disant « Lisez, allez dans les bibliothèques et soyez vous-même les souteneurs de ces efforts. »
Voyez l'auteur qui a des livres à vendre qui parle. Fiscalité, donc, l'Agence du revenu du Canada a fait une bourde. Elle a envoyé à certains contribuables un avis disant que c'était pas grave si les rapports d'impôts étaient remis seulement le 5 mai. Résultat, eh bien, pour tout le Québec, sachez-le, vous pouvez refaire vos rapports d'impôts autant à Québec qu'à Ottawa jusqu'au 5 mai. Grosse nouvelle.
On parlait tout à l'heure des PME, de leur importance dans le tissu économique, et Dieu sait qu'elles le sont, importantes. Eh bien, il faut se rappeler aussi que chaque année, les entrepreneurs du milieu de la construction, ils doivent composer avec plus de 7 milliards de dollars de paiements en retard. Et ça, c'est des situations qui se répercutent sur la trésorerie des petites entreprises et les travailleurs. Donc, si on veut se demander pourquoi parfois il y a du doute, c'est peut-être là aussi qu'il y a une raison à chercher.
L'économie souterraine au Canada, ça représente quoi? Évidemment, il n'y a pas de compilation officielle de chiffres exacts, mais d'après Statistique Canada, on parlerait d'environ 42,4 milliards de dollars, ce qui est quand même 2,3 % du produit intérieur brut. C'est en baisse, d'après Statistique Canada toujours, ça a déjà été jusqu'à 2,7 %. Quels sont les secteurs les plus touchés? Bien évidemment, on ne surprendra personne en parlant de construction, mais la finance, les assurances, les services immobiliers, les services de location, de bail, les sociétés de portefeuille sont également contaminés par cette plaie, puisque je vous rappelle que 42 milliards de dollars qui échappent à l'économie, c'est à peu près la moitié de cette somme-là qui est en impôts non payés en bout de piste, là, autant en salaire ensuite et en profit, en dépenses et en taxes. Bref, c'est aux frais de tout le monde.
On parle très souvent d'environnement de façon macroéconomique, avec les grands équilibres, les grandes perspectives, etc. Toujours intéressant aussi de se focaliser sur des applications minuscules du genre un oiseau contaminé. Ben, savez-vous que l'oiseau le plus contaminé au monde est au Canada? Une équipe de chercheurs de McGill a analysé une trentaine d'oiseaux. Ben, résultat, le foie de l'épervier de Cooper, je ne sais pas si vous connaissez ce petit oiseau qui est charmant et très joli, eh bien, il contient une concentration surprenante de PBDE. Qu'est-ce que c'est que le PBDE? C'est un produit chimique ignifuge qu'on retrouve dans les rembourses des appareils électroniques. Il y en a dans les téléviseurs, les ordinateurs, mais aussi les voitures, etc. Alors, c'est terrifiant, cette idée que, à la fois, un petit oiseau comme ça, tout innocent, qui émerveille nos regards et nos jardins, eh bien, se trouve être une cristallisation de l'empoisonnement.
Ah, oh, mais c'est rien à côté de la cervelle de moineau du politicien moyen. On parle souvent de gestion de fonds, de ces génies qui peuvent vendre et acheter des actions et faire énormément de profit en le faisant. Eh bien, sachez qu'il y a un fonds de placement qui s'appelle Lavoya, qui a acheté au milieu du siècle dernier, en fait, en 1935 ou 40, des actions en part égale de 30 grandes compagnies américaines et qui a fait quelque chose d'absolument révolutionnaire. Ils les ont conservées. Eh bien, leur rendement est supérieur à peu près tout ce qu'on trouve sur le marché pour ne pas avoir acheté, ne pas avoir vendu et simplement avoir attendu pendant 4 cinquièmes de siècle. C'est impressionnant.
Alors vous savez que pour le fromage aussi, il faut savoir attendre, parce que quelquefois, quand il a séjourné comme ça pendant quelques années dans des caves, il est bien meilleur. Et ben, le fromage La Liberté a été sacré grand champion canadien. Il sort de la fromagerie du Presbytère. Et bah écoutez, c'est un événement. Les producteurs laitiers du Québec ont couronné les champions dans 27 catégories. Et bien, ce fromage La Liberté, c'est une pâte molle avec une croûte fleurie, enrichie de crème. Il a été sélectionné par un jury formé d'éminents experts. On aurait bien voulu en faire partie. Malheureusement, on était rivés derrière nos micros, mais goûtez-le.
D'ailleurs, pour vous parler de mon vécu, je vous dirais qu'à peu près chaque année, je fais la randonnée. Je vais à Sainte-Élisabeth-de-Warwick, à la fromagerie du Presbytère, acheter du fromage, parce qu'ils en ont plusieurs de très, très bons, y compris le bleu d'Élisabeth, qui est un de mes bleus préférés. Enfin, voilà, j'ai été chauvin, je vous ai parlé de mon vécu. Libre-échange avec les Européens. On a déjà fait état ici des réticences des Allemands qui s'interrogent sur le maintien de la souveraineté nationale à travers les processus d'arbitrage. Les Allemands, je vous le rappelle, trouvent pas très drôle de, par exemple, être obligés de passer par un arbitrage privé pour faire de grandes manœuvres qui pourraient éventuellement léser des compagnies étrangères. On le voit parce que l'Allemagne a renoncé à l'énergie nucléaire récemment et elle est poursuivie par une grande société suédoise qui avait un contrat en disant « Bien, vous me privez de mon contrat, vous me faites perdre des profits pour des dizaines d'années à venir, alors je vous poursuis. » Donc, les Allemands veulent absolument pas que le traité de libre-échange avec le Canada contienne des dispositions équivalentes. Eh bien, ils ne sont pas tout seuls. Alain Juppé était de passage à Montréal cette semaine. Alain Juppé, qui est peut-être le seul rival de Sarkozy pour la droite aux élections présidentielles françaises, eh bien, il a dit que les Français se posent substantiellement les mêmes questions, à savoir, doit-on prévoir des arbitrages? Il semblerait que non. Et c'est déjà tout pour cette première moitié de l'émission. On fait une courte pause et on revient après la pause.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Bonjour, on est de retour donc, et au cours de la prochaine demi-heure, il sera question de français au travail, d'unanimité. Est-ce bon ou comment ne pas la gérer? Mais d'abord et avant tout, changement climatique et Grand Nord.
Oui, retour en Arctique. L'Arctique, c'est devenu un Eldorado blanc que beaucoup envisagent d'explorer, pour ne pas dire de détruire. À commencer évidemment par nos amis les pétroliers. Alors, est-ce que le Conseil de l'Arctique jouera un rôle efficace dans la préservation et dans la défense de cette région? C'est ce que s'est demandé Anne Pelouas dans un article du Monde qui s'appelle « Le changement climatique au cœur des débats du Conseil de l'Arctique ». Il y avait un absent de taille. Alors, fait allusion à la dernière réunion de ce Conseil. Mm-hmm. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, et un invité de marque, le secrétaire d'État américain John Kerry, à la réunion ministérielle du Conseil de l'Arctique, vendredi 24 avril à Iqaluit, dans le territoire du Nunavut, dans le Grand Nord canadien. Le premier s'était décommandé, froissé semble-t-il par l'annulation à Ottawa d'une rencontre préparatoire à la réunion d'Iqaluit. Le gouvernement canadien, en froid avec Moscou depuis le début de la crise ukrainienne, ne souhaitait pas, dit-on, la présence de diplomates russes dans la capitale. Du coup, on a plutôt dépêché le ministre russe de l'Environnement, Sergueï Donskoï. Ce mini-sommet, créé en 1996, au cours duquel le Canada a passé le relais aux États-Unis après 2 ans de présidence du Conseil de l'Arctique, a démontré combien les 8 pays membres sont préoccupés par les effets des changements climatiques. Vendredi, les ministres ont dévoilé un nouveau plan d'action pour améliorer la prévention de la pollution par les hydrocarbures et un accord cadre pour la réduction des émissions de carbone noir. Le carbone noir, c'est la suie. Et de méthane, gaz à effet de serre parmi les plus dangereux. Le carbone noir émis par la combustion au diesel et les feux de bois est une plaie en zone arctique où il s'accumule sur la glace en une pellicule de suie noire qui retient la chaleur et accélère la fonte de la banquise. « Il faut se regarder dans le miroir », a déclaré John Kerry, avant de rappeler que les États-Unis veulent mettre en œuvre un plan d'action pour recenser les émissions nationales de carbone noir, puis les réduire, y compris par la voie de la coopération internationale. Mais il faudra attendre 2017, lors de la prochaine réunion ministérielle du Conseil de l'Arctique, pour avoir des cibles de réduction pour les 8 États membres. La Russie salue tout de même l'accord cadre comme une réponse opportune aux défis posés. La présidence américaine pour les 2 prochaines années a des objectifs ambitieux mais réalisables, estime M. Kerry. Son programme a pour axe principal de répondre aux répercussions des changements climatiques sur la zone arctique, mais aussi d'y promouvoir la sécurité et d'améliorer les conditions de vie des populations locales. Le Canada avait plutôt mis l'accent ces dernières années sur le développement économique et social avec la création d'un conseil économique de l'Arctique. Monsieur Kerry a profité de son passage à Iqaluit pour évoquer la conférence des Nations Unies sur le climat à Paris en décembre, dont il espère un accord ambitieux sur des mesures climatiques. Merveilleux langage diplomatique quand on sait d'avance que cette conférence ne servira strictement à rien.
Ah oh non, 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 on va sauver le monde.
Ah oui. Et demain, on rase gratis, c'est bien connu. Il juge que l'un des moyens d'être en position de force avant ce rendez-vous est d'avancer dans les négociations avec de grands pollueurs comme la Chine et l'Inde. Quant à l'Arctique, il est essentiel, selon lui, de lier son sort au reste du monde, lequel est responsable de la majeure partie de ses problèmes environnementaux, comme de sa protection. L'Arctique est une région de premier plan pour le système climatique mondial, souligne-t-il, et les changements qui y sont observés sont alarmants, avec des températures qui augmentent deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale. Il a dressé un tableau sombre de la situation, évoquant la disparition programmée des glaces au large de l'Alaska, l'érosion accélérée des côtes, les infrastructures qui s'écroulent dans certains villages avec la fonte du pergélisol, la libération du méthane, la calotte glaciaire qui se rétrécit, les tempêtes et les inondations qui se multiplient. Dans le Washington Post, jeudi, John Kerry s'était déjà ému des dangers énormes que pourrait engendrer la fonte de la calotte glaciaire du Groenland. Ces dangers qui s'accumulent et le fait que ce sont des régions sauvages et immaculées qui sont affectées devraient peser sur notre conscience, ajoutait-il. L'acidification des océans, particulièrement celui de l'Arctique, est un autre des sujets de préoccupation pour la présidence américaine qui souhaite pousser les études en la matière. Elle veut également créer un réseau d'aires marines protégées pour contrer les effets négatifs d'une hausse attendue du trafic maritime à la faveur de la fonte des glaces. Et compte peser de tout son poids pour que l'essor économique en Arctique respecte les principes du développement durable. En Arctique comme ailleurs, l'énergie propre, c'est la solution au changement climatique, martèle le secrétaire d'État. Interrogé sur le mouillage de navires militaires russes début avril sur le site d'une ancienne base norvégienne secrète en Arctique, M. Kerry a indiqué que les questions de sécurité militaire n'avaient pas leur place au Conseil de l'Arctique, alors qu'on pouvait en discuter dans d'autres forums comme le G20 ou le G7. Tous les participants à la rencontre d'Iqaluit ont pris soin d'insister sur le bon esprit de coopération qui anime le Conseil de l'Arctique, et ce malgré les tensions actuelles avec la Russie. « Il n'est pas dans notre intérêt que cette coopération soit perturbée », a indiqué Leona Aglukak, ministre canadienne de l'Environnement, tandis que la ministre suédoise des Affaires étrangères, Margot Wallström, soulignait combien elle était constructive pour la paix et la stabilité dans la région. Même le ministre russe a insisté sur le fait que la coopération en Arctique se doit de continuer et de se renforcer malgré les circonstances extérieures. Il n'y a pas de place pour des tensions en Arctique. Tout ça, c'est des bonnes intentions. C'est probablement un discours un petit peu plus concret, un petit peu plus réaliste que celui qu'on entend dans les grandes conférences internationales. Je reste assez sceptique, encore une fois, parce que ce conseil n'a pas de pouvoir décisionnaire. Mais enfin, bon, il faut quand même suivre ces initiatives.
Oui, faut-il le dire ici, la plupart des nations concernées ne s'entendent seulement pas sur le tracé des frontières qui séparent l'Arctique actuellement. Le Canada, pour preuve, est en discussion avec le Danemark, on est en procès avec le Danemark. On est en litige avec les Russes et avec les Américains sur le tracé de ces frontières-là. Par ailleurs, c'est un environnement qui est à peu près intact jusqu'à maintenant et si on a une chance de préserver quelque chose, c'est là que ça va se passer. Alors, un des mandats de cette émission, c'est de vous parler de vie au travail. Et c'est ce que je vais faire maintenant en vous parlant de droit de travailler en français. Ça semble presque révolutionnaire d'en parler encore aujourd'hui. J'ai connu l'époque, moi, où il fallait parler anglais si on voulait aspirer à devenir ne serait-ce que contremaître dans une entreprise. Eh bien, est-ce qu'on est en train d'y retourner? Michel David signe une chronique intitulée « Les niaiseries » dans le Devoir du 28 avril. Le mois dernier, à l'occasion de la Semaine de la francophonie, de nombreux travailleurs qui œuvrent sur le chantier du futur centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, on en parlait tout à l'heure, avaient déploré le fait que, en dépit des démarches faites auprès du consortium d'entreprises étrangères chargées du projet et auprès de l'Office québécois de la langue française, l'anglais était toujours omniprésent dans les communications, les plans et devis et autres documents de travail. Un des principaux chantiers de l'histoire du Québec se construit en anglais, avait lancé le directeur général de la FTQ Construction, Yves Ouellette. Si c'était un problème, l'Office québécois de la langue française serait toujours à nos trousses, avait répliqué un porte-parole du consortium. À moins que le problème se situe à l'Office lui-même, traumatisé par l'épisode du Pastagate. Je vous le rappelle, c'est un épisode où l'Office de la langue française avait condamné l'attitude d'un restaurant italien qui avait écrit son menu en italien. Eh bien oui. Il n'y a pas qu'au CHUM que le français est battu en brèche. Lundi, le Journal de Québec rapportait qu'il ne se porte guère mieux au chantier naval Davy, à Lévis. Instructions rédigées en anglais, communications en anglais, remplacement d'employés francophones par des sous-traitants unilingues anglophones. Un travailleur qui s'est plaint à l'Office québécois de la langue française en novembre dernier soutient que la situation ne s'est pas améliorée. « Près de 5 mois après le dépôt de ma plainte, rien n'a changé », écrit Serge Lapointe dans un rappel de sa plainte à l'Office québécois. La semaine dernière, malgré la mise à pied de 125 de nos compagnons de travail, Davy ramenait un sous-traitant d'Halifax, McKinnon & Holding Limited, dont tous les travailleurs sont unilingues anglophones. Le plus étonnant est la réaction du président du syndicat des employés de Davy, un syndicat CSN, Gaétan Sergerie, qui condamne les démarches de M. Lapointe. « Ce sont des Anglais qui ont acheté le chantier. Quand je rencontre la direction, il y a un traducteur. Je n'ai aucun problème », a-t-il déclaré aux collègues du journal. 38 ans plus tard, on se croirait revenu à l'époque d'avant la loi 101. Il a même menacé le journaliste, et passez-moi l'expression, « Si vous sortez des hosties de niaiseries, vous allez vous faire planter. Ici, on travaille en français, la direction est en anglais, on a des traducteurs. » On pense immédiatement aux propos que Philippe Couillard avait tenu durant le deuxième débat des chefs de parti lors de la dernière campagne électorale, quand il avait déclaré qu'un travailleur d'usine devrait parler anglais au cas où un Américain viendrait poser des questions. Au bureau de la ministre responsable de la Charte de la langue française, Hélène David, on se dit satisfait du suivi qui est fait par l'Office québécois, dont la dernière rencontre avec la direction de Davy remonte au 9 mars. Le processus d'obtention d'un certificat de francisation qui devait se terminer en juin sera prolongé sans délai précis, mais la collaboration de l'entreprise est bonne, assure son attaché de presse. J'ai jamais connu un attaché de presse qui vous dirait que la collaboration de l'entreprise n'était pas bonne, ou enfin, un attaché de presse qui conserve sa job, là. Quant aux travailleurs unilingues anglais qui auraient été engagés par le sous-traitant, on laisse tout simplement l'entreprise le soin d'en expliquer la nécessité. Le chantier Davy a une histoire particulièrement mouvementée depuis sa création il y a 190 ans. On ne compte plus les fermetures, les injections de fonds publics et les changements de propriétaires. Il a été placé sous la protection des tribunaux et vendu à 2 reprises en 3 ans. Aussi, son rachat par Zafiro Marine en novembre 2012 avait-il fait naître un nouvel espoir? Plus de 1100 employés y travaillent actuellement et la compagnie d'assurance britannique Lloyd's lui a décerné le titre de meilleur chantier naval en Amérique du Nord pour l'année 2014. Et je profite ici de l'occasion pour dire que Lloyd's n'est pas une compagnie d'assurance. C'est une mutuelle assez étrange. De toute évidence, le syndicat ne tient pas à ce que cette renaissance soit compromise par un conflit linguistique, alors que Davy vise le contrat de 2 navires ravitailleurs de la marine canadienne. Dans son préambule, la Charte de la langue française affirme que le français est la langue normale et habituelle du travail. Elle prévoit également que les communications de l'employeur avec ses employés doivent se faire en français. Faut-il faire preuve de plus de souplesse au nom de la création d'emplois, comme semble le croire le président du syndicat des employés du chantier Davy? Cette obsession du français serait-elle une niaiserie? On presse, avec raison, le gouvernement Couillard de légiférer sur la laïcité de l'État, mais tout le monde semble résigné à sa passivité en matière linguistique. Même au Parti québécois, on n'en parle presque plus depuis l'échec du projet de loi 14. Son porte-parole, Maca Cotto, demeure prudent sur le dossier de la Davy. Si ça s'avère, c'est inacceptable, mais je ne suis pas sur le chantier pour savoir qui dit vrai. Pierre-Carl Péladeau s'est montré très intransigeant, oui, sur la chanson en français. À Montréal ou à Lévis, que proposera-t-il pour assurer la primauté du français au travail?
Je suis un Québécois de souche. Ma loi 101, faut pas que tu y touches. C'est pas que je sais pas bien parler, mais je suis un colon anglicisé. À chaque les boys m'ont dit le foreman, vu que tu es l'eau de la vanne, avant de puncher à peine ton chien. Chercher le packing slip du gars, y'a collé son helper qui dormait sa switch. Je suis un Québécois de souche, je chante du marge aux
pitch dans Lazy Boy avec ma darling. On regarde les sitcoms, pis les talk shows des States.
Les talk shows des States.
C'est un Québécois de souche. J'ai une fleur de lys tatouée sa bouche.
Succès souvenir des Cowboys fringants, un choix musical de Rémi Hermoso qui assure la mise en onde de cette émission et qu'on remercie au passage. Les Cowboys fringants, donc, qui avaient le chic pour rassembler tout le monde et faire l'unanimité. Voyez le lien qui s'en vient.
Bravo.
Ce qui n'est quand même pas toujours le cas, puisque bien souvent, décider, c'est faire fi des opinions contraires.
Eh oui, mais qu'il est difficile d'être un individu qui ne pense pas comme tout le monde dans nos sociétés, qui adore l'uniformité et les stéréotypes.
À qui le dites-vous?
Hein?
À qui le dites-vous?
Enfin, merci, vous êtes en dehors de cette sphère, François, et tous nos auditeurs s'en félicitent. Et vous remercie d'ailleurs chaque matin, on le sait. Alors, tout ça, c'est vrai dans la société comme dans l'entreprise. Mais face aux contraintes qui sont liées au travail, la question de l'originalité, elle existe aussi. Eh bien, l'originalité, c'est le fait de ne pas faire l'unanimité. Alors, ça pose problème. Et ça a intéressé Geneviève Desautels dans un article des Affaires que je vous lis. Vous venez de terminer votre présentation devant le comité de gestion. La majorité des participants vous félicite. Ils croient en votre projet et vont vous supporter dans la mise en œuvre. Alors, je répète que supporter, ça a un sens très particulier ici, puisque en France, on supporte sa belle-mère. Et ici, on supporte son équipe de hockey. Bon, ceci étant dit. Bon, je vois votre regard noir, François. Je ne ferai plus ce genre de remarques, c'est promis.
Non, je veux bien tolérer ma belle-mère.
Dans le coin gauche, enfin la mienne est adorable, je la supporte facilement. Hein. Dans le coin gauche de la salle
oui,
de réunion.
Oui, mais elle est sur un autre continent.
Dans le coin gauche de la salle de réunion, il y a un participant plus sceptique. Il n'argumente pas en faveur ni en défaveur de votre projet. Vous ressentez qu'il n'adhère pas à votre projet comme vous l'auriez souhaité. À la fin de votre journée de travail, à qui pensez-vous ? Aux 6 participants qui ont dit oui avec enthousiasme ou à celui qui n'a pas dit oui, sans pourtant vous avoir dit non ? Nous savons bien rationnellement qu'en exposant à nos collègues, amis supérieurs et au grand public des idées novatrices et nos croyances, même sans vouloir provoquer, nous risquons de déplaire, déranger et peut-être même choquer. Qu'est-ce qui fait que lorsque nous sommes face à une situation où nous percevons que les idées que l'on porte ne font pas l'unanimité, il se crée souvent un pincement et un tiraillement physique à l'intérieur de nous ? Pourquoi, lorsque nous faisons face à un potentiel détracteur, notre hamster se met à tourner à vitesse grand V durant quelques heures, voire même quelques jours? J'aime beaucoup cette image du hamster dans l'estomac. Mais ma croyance personnelle est qu'il est difficile d'assumer pleinement de ne pas faire l'unanimité parce que nous sommes des humains et que fondamentalement, les humains veulent aimer et être aimés. Alors Freud a dit des choses différentes là-dessus à propos notamment de la pulsion de mort. Mais bon, c'est un autre débat que nous n'entreprendrons pas ce matin.
Freud n'était pas économiste.
Non, non, il était d'ailleurs rien du tout. Alors, avec le temps, l'expérience, sauf très malhonnête, avec le temps, l'expérience et en travaillant à construire notre réelle confiance en soi, on arrive à vivre avec le fait de ne pas faire l'unanimité. On se fait donc une raison. On se dit que la cause ou le projet que nous portons vaut le prix de risquer de déplaire. Les leaders d'équipe vivent cela au quotidien. Voilà pourquoi certains choisissent d'exercer leur autorité avec une approche amie ou de coordonnateur pour ne pas avoir à confronter leurs employés, souvent des anciens collègues et amis. Là, on voit le spectre du politiquement correct arriver à vitesse grand V. Voilà pourquoi il est si difficile de trouver le courage d'oser être authentique dans nos conversations professionnelles et personnelles. Nous avons souvent peur que l'autre le prenne mal et que cela entache la relation. Voici pourquoi beaucoup de gestionnaires choisissent d'endurer trop longtemps une situation problématique plutôt que d'offrir une rétroaction, même si cette dernière est énoncée de façon constructive. Ils ne veulent pas avoir à vivre au quotidien avec un employé qui pourrait démontrer qu'il n'est pas en accord avec ce qu'il propose. C'est juste plus fort que nous. On aimerait donc que, que tout le monde nous aime. Vous devinez que je m'inclus dans le lot. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'aime partager mes réflexions avec les autres. Pour cela, je choisis d'exposer mes croyances. Je prends donc le risque de ne pas faire l'unanimité. Depuis le début de ma carrière, j'enseigne, je facilite des rencontres et je fais des présentations. Encore aujourd'hui, lorsque certains étudiants ou participants semblent perplexes, je fais de mon mieux pour trouver le dénominateur commun entre mon message et leurs besoins. La plupart du temps, cela fonctionne. Depuis quelques années, je travaille à démocratiser le leadership et le coaching. Je crois profondément que chacun peut développer son propre leadership. Dites-moi François, la coaching, leadership, comment ça se fait qu'il y ait des inclusions comme ça de mots anglais en deux phrases là, je ne comprends plus. Hein. Bon, appelez-moi la responsable de la commission. Pour être et agir en fonction de qui il est réellement dans toutes les sphères de sa vie. Je crois aussi que le coaching est une approche puissante et efficace de développement dans l'action pour réussir à développer les compétences et habiletés du leadership. Ça fera donc quatre fois dans le même paragraphe. En lien avec ses objectifs professionnels et personnels, j'aime être présente sur la place publique et sur les réseaux sociaux. Je dois assumer plus que jamais de ne pas faire l'unanimité. Les réseaux sociaux permettent de connaître assez rapidement l'opinion des lecteurs qui sont en accord ou en désaccord avec mes idées, projets et croyances. Oui, en accord ou en désaccord, de là avoir des analyses de fond, c'est une autre affaire. Hein. Je dois maintenant faire face à ce que l'on nomme des trolls. Est-ce un signe que je suis en progression vers mon objectif d'atteindre une masse critique de personnes qui ont le goût de réfléchir sur le propre leadership authentique? Ouh là là. Rappelez-moi le truc de Boileau, ce qui s'énonce. D'accord.
Les mots pleurent s'exposent
clairement. Voilà, d'accord. J'apprends à assumer et à accepter qu'il existe des individus qui ont visiblement beaucoup de temps à investir à détruire plutôt qu'à construire. Ah, revoilà la pulsion de mort. Cela m'a permis de me créer un processus pour assumer de ne pas faire l'unanimité. Alors, 1. En parler avec des gens de confiance et capables d'être objectifs envers la situation. L'intention est de valider ma perception de la situation. 2. Échanger avec d'autres qui vivent ce type de situation et qui peuvent me partager comme ils font face à ce type de situation. 3. Prendre le temps de réaffirmer mes idées, mes croyances et mes motivations. 4. Cette introspection jumelée à la relecture de toutes les rétroactions positives que j'ai reçues en même temps que la critique virulente des trolls m'a permis de voir le verre d'eau à moitié plein. Être heureux, c'est un travail à plein temps, comme je l'énonçais dans un article précédent. Si les détracteurs peuvent servir à nous permettre de nous ancrer davantage dans qui nous sommes et à assumer que nous ne pouvons pas toujours faire l'unanimité, je remercie les trolls de m'avoir choisi comme cible. Et vous, quels sont vos trucs et outils pour assumer de ne pas faire l'unanimité? Alors, chacun en a, vous en avez certainement. Je ne sais pas si j'en ai.
Oui, moi je me déguise en troll régulièrement.
Ouais. Ça, c'est une bonne idée. Je vais essayer de le faire aussi. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est une façon supplémentaire de se rappeler que la majorité, c'est aussi quelque chose de tyrannique.
On parlait de tyrannie de la majorité à l'instant même, mais ça m'amène à sa toute première nouvelle brève qui nous parle de rémunération des dirigeants dans les entreprises canadiennes. Il faut savoir qu'on a introduit dans le processus des assemblées annuelles des votes pour approuver la politique de rémunération des dirigeants. Ces votes-là sont consultatifs, puisque décider que combien on va payer le président et l'équipe d'encadrement, c'est la prérogative exclusive du conseil d'administration. Mais en faisant ce vote-là, on s'aperçoit si un administrateur est appuyé ou pas par l'actionnariat. Or, ce qui est nouveau, parce qu'au début, ce sont des actionnaires, les grands actionnaires institutionnels, ben ils ne veulent pas brasser la cabane tant qu'il va y avoir des profits à l'atelier. Eh bien, on voit apparaître des entreprises qui sont désavouées. Barrick Gold l'a été cette semaine, c'est la grande orifère canadienne. Barrick Gold, donc, a pris note du message puisque 75 % des actionnaires ont décidé que ça n'avait aucun sens, leur politique de rémunération, qui accroissait de 25 % la rémunération du président, alors que les profits, eux, sont en baisse. Il y a une banque aussi, la Banque Toronto Dominion, qui a fait l'objet d'un vote négatif cette semaine et qui a pris bonne note de ça et qui va donc revoir sa politique de rémunération sûrement. Pendant ce temps-là, à New York, la Stock Exchange Commission, je ne sais pas s'il s'inspire de la politique canadienne dans la matière, elle parle carrément d'obliger les entreprises à tenir ces votes-là, qui seraient toujours consultatifs, mais aussi de divulguer la rémunération avec les bonis, l'avantage des options d'achat, des primes de départ prévues, et aussi de comparer avec les revenus, est-ce qu'ils sont en accroissement ou pas, et avec ce que les autres entreprises du secteur paient à leur cadre, de façon à ce que les actionnaires puissent prendre une décision éclairée sur la politique de rémunération. Je trouve que c'est une excellente politique, quant à moi.
Eh bien, écoutez, espérons que tout ça sera suivi d'effet. Alors, on parlait d'Amazon la semaine dernière, vous vous souvenez peut-être, qui avait reçu l'autorisation de faire voler ses drones pour livrer de quoi des livres, évidemment, hein, rien d'autre, hein, François. Bah, figurez-vous que Amazon pourra livrer votre colis, je ris parce que c'est tellement drôle, dans le coffre de votre Audi. Vous n'étiez pas à la maison quand le livreur du colis d'Amazon est arrivé? Eh ben non, vous pourrez le recevoir dans le coffre de votre voiture Audi. Alors, c'est une expérience qui va démarrer, hein, à Munich en mai. Alors, c'est une technologie qui permet, avec un GPS, bien de localiser votre auto, d'avoir le code pour ouvrir le coffre, de déposer le colis et de s'en aller. On croit rêver. Je ne sais pas si ça facilite la lecture. Si c'est le cas, je suis pour.
Ceci étant, là, on va faire une distinction tout de suite. Ce n'est pas le drone qui livre le colis dans votre voiture. C'est l'agence de livraison qui se fait donner les coordonnées de la bagnole et qui met le colis dedans. Parce que je vois mal un truc à hélice arriver à côté de votre belle peinture de Audi, enfin.
Mais... oh, vous avez cassé mon rêve, quand même, c'est pénible.
Bon, je reste quand même dans votre voiture et en Europe aussi, puisque l'Union européenne entend imposer un appel au secours automatique en cas d'accident. C'est-à-dire, vous avez un accident de voiture, c'est automatique, la voiture envoie un appel au secours et ça va devenir obligatoire. Ceci dit, est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle? Pardonnez aux paranoïaques que je suis de se poser des questions, mais l'étape suivante, est-ce que c'est pas de dire... il allait trop vite au moment de l'accident ou il ne devait pas se trouver là au moment de l'accident ou alors la voiture a repéré un alcool dans l'air de l'accident, dans l'air de l'habitacle. Je ne suis pas sûr que j'aime qu'on aille aussi loin que ça.
Vous nous avez parlé de l'hôpital tout à l'heure, de la marchandisation, c'est français ça, je sais pas.
Oh, mercantilisation peut-être.
Oui, ça, mercantilisation, ça me plaît davantage, de la santé. Mais figurez-vous qu'une étude commandée récemment par le ministère de la Santé montre que finalement, c'est plutôt mieux dans le privé que dans le public. C'est un peu préoccupant parce que ce qu'on constate, c'est que les installations pré- et post-opératoires sont moins fonctionnelles à l'hôpital en général que dans les cliniques privées et que les blocs opératoires y sont également plus vétustes. Reste à évaluer les compétences, j'espère qu'elles sont équivalentes dans les deux cas.
Je m'en voudrais de ne pas faire écho au propos de Stéphanie Gramont qui nous enseignait dans la presse cette semaine comment gérer la hausse des tarifs de garderie. Parce que soyez conscients, parents qui faites affaire avec une garderie subventionnée, que votre tarif de 7,30 $ par jour va demeurer cette année 7,30 $ par jour. C'est à la fin de l'année que l'impôt va vous facturer un surplus si jamais vous gagnez plus de 50 000 $. Alors, il faut le prévoir immédiatement, quitte à demander à votre employeur de prélever un peu plus d'argent sur vos salaires de manière à être capable de faire face à votre rapport d'impôt de l'an prochain. Par ailleurs, Stéphanie Gramont nous donne un truc de base, particulièrement pour les couples séparés. La grande question, c'est à qui on facture les services de garde? Parce qu'il faut savoir que c'est la facture du service de garde qui va déterminer combien vous allez payer de surplus. Alors, si votre ex-conjoint ou ex-conjointe gagne beaucoup moins que vous, vous avez tout intérêt à ce que il assume les frais de garde, quitte à le rembourser, puisque lui n'aura éventuellement pas de surprime à payer à la fin de l'année et ça pourrait payer le service. Par ailleurs, pour les gens vraiment défavorisés, il faut savoir que le recours à une garderie en milieu privé et non pas dans le programme des CPE pourrait revenir à aussi peu que 1 $ par jour à cause de tous les impacts fiscaux si évidemment vous avez le moyen d'attendre votre rapport d'impôt. Donc, planifiez votre garderie.
Un petit mot sur Warren Buffett, tout le monde l'adore parce qu'il dit « il faut taxer les riches ». Enfin, vous savez, avec son grand étendard rouge, là, à la sortie de la bourse. Ben, en réalité, on s'est aperçu qu'il faisait exactement le contraire. Oh, comme c'est embêtant.
Ah non, Warren Buffett, en fait, profite du système
mais
et
oui,
le dénonce.
Mais oui, il fait tout ce qu'il faut.
Je trouve ça tout à fait correct.
Ah oui, oui, oui. Oui.
Ceci dit, je vous coupe, vous l'entendez, l'indicatif qui nous signale déjà la fin de cette émission. Dieu que ça passe vite une heure. On remercie Rémi Hermoso à la mise en onde et aux choix musicaux. Et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci.